Alors ça, c'est...
Thank you.
me dire, oh, quand c'est Béatrice, je ne descends plus.
Là, c'est pas Béatrice qui prêche, je descends. On m'a demandé pour la scène, j'ai dit, ok. Non, moi, tu sais, les bonnes paroles en chair, christianisme social. 20 jours à l'hôpital, t'as même pas un mail, même pas un mail. 39 ans de routine, tu vois. Et puis, elle va dire à meurtre, oui, mais j'étais en vacances. Et moi, il ne faut pas me prendre pour un imbécile.
Bonjour. Bienvenue.
Je crois que oui. Normalement, c'est Christine. J'étais en
bac. Ah, elle
n'est
pas là.
Non, Aurore n'est pas là. Non. Normalement, c'est Christine, mais si elle ne se sent pas de le faire,
quand elle est tout seule, des fois tout se fait en chair.
Ah, d'accord.
Non, quand elle était avec son,
mettez un pupitre, mais vous, c'est vous qui voyez. Non, si vous préférez la faire en bas.
Je vais rester à voir pas
un pupitre. Si,
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous adresse un salut fraternel de la part de votre église sœur des Batignolles, où je suis ministre, et un salut aussi, si Béatrice est avec nous par la magie numérique, un salut aussi à elle. C'est aujourd'hui le dimanche où nous fêtons la Réformation. Le 31 octobre 1517, Martin Luther afficha ses 95 thèses réformatrices sur les portes de l'église de Wittenberg. Ce fut le commencement de la Réforme que les églises protestantes célèbrent donc le 31 octobre, ou le dimanche le plus proche. Nous entrons dans ce temps de célébration en nous levant et en chantant le premier spontané sur notre feuillet. Ensemble, nous prions. Oui, Éternel, nous voici dans ta maison pour nous mettre à ton écoute. Donne-nous ton esprit et fais silence dans nos cœurs, afin que rien ne vienne nous distraire de ce moment de la communion avec toi et avec les frères et sœurs. Nous te prions pour que tu nous donnes cette parole qui nous fait vivre et qui nous relève. Oui, parle, Éternel, tes serviteurs écoutent. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 138 qui est annoncé sur nos panneaux dans le psautier. Psaume 138, que tout mon cœur soit dans mon chant. Thank you. Je vous invite à bien vouloir vous asseoir. Ensemble, nous écoutons la volonté de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 5, c'est Jésus qui parle et qui déclare « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ensemble, nous prions. Oui, Éternel, en ce jour où nous nous souvenons de la Réformation, nous te bénissons pour ces hommes et ces femmes qui ont refait jaillir l'Évangile de dessous le boisseau et redonné à ton Église la saveur de son sel. Merci pour la redécouverte de l'Évangile, car c'est grâce à cette bonne nouvelle que nous pouvons nous présenter aujourd'hui sereins devant toi. Car alors même que nous reconnaissons nos manquements et les zones d'ombre de nos vies, nous avons intégré ce message de Jésus qui nous assure que, bien loin d'être notre juge, tu es pour chacun, chacune, un Père bienveillant. Relève-nous si nos faiblesses nous ont fait chuter. Sanctifie nos consciences et fais-nous grandir dans la bienveillance envers les autres. Nous te le demandons au nom du Christ Jésus qui nous conduit à toi. Amen. Et nous nous levons pour entendre et recevoir les paroles de grâce. Elles nous viennent de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est ici la bonne nouvelle. Nous avons souvent des mauvaises nouvelles dans notre boîte aux lettres, des factures, d'autres mauvaises nouvelles à la télévision. Mais ce matin, c'est pour nous ici une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, que Dieu nous accueille, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre genre, quels que soient nos défauts, Dieu nous aime comme un Père tendre et il nous le dit ce matin par cet épître aux Éphésiens, c'est par la grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui avait fait ce qu'il fallait, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile et nous la chantons avec le spontané suivant. Et cette foi, cette bonne nouvelle, nous voulons la dire avec les mots que je vous propose et auxquels nous répondrons « Amen », ce qui signifie « C'est la vérité, qu'il en soit ainsi ». Chrétien, chrétienne, que crois-tu ? Je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et qui nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et frère. Il révèle le Père et établit la nouvelle alliance qui nous fait enfants de Dieu. En lui, nous avons le pardon, l'espérance et l'amour. Je crois que Dieu est esprit. Il demeure en notre esprit et il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par l'Évangile et il nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois au royaume de Dieu comme horizon des hommes et espérance qui donne du sens au présent, au passé et au futur. Amen. Et nous chantons le spontané suivant. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Je vous invite à bien vouloir vous asseoir. Et je vous propose trois textes avant de les méditer, de les entendre, de les recevoir. Et nous disons, Éternel, donne-nous ton Esprit Saint pour être conduit dans ces méditations, dans cette lecture. Donne-nous ton Esprit Saint. Et c'est ce que nous te demandons au nom du Christ Jésus qui nous conduit vers toi. Amen. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, récit de l'enfance, nous avons au verset 46 cette réponse de Marie. Après l'Annonciation, ce cantique « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 28 et suivants, nous avons ce récit merveilleux. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins-le. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme l'agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. » L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe répondit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 et suivant. Paul qui déclare, « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il a dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. » Jusqu'ici, la parole biblique, vérité, ta parole éternelle, instruis-nous et sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à bien vouloir vous lever pour chanter le cantique 170, « Viens habiter dans nos âmes ».
est à bien vouloir vous asseoir. Ensemble, nous prions. Oui, Éternel, notre époque, à nous aussi, nous paraît rude. Et en même temps, elle semble si fragile dans ses équilibres. Les horreurs de la guerre que vivent ces milliers de civils sous les bombes et la mitraille, au Proche-Orient ou à nos portes en Europe, en Ukraine. Les dérèglements climatiques, les injustices sociales, le sentiment de délitement de la cohésion sociale et parfois des valeurs. Où trouver notre sagesse et notre paix, sinon en toi, auprès de toi? Mais comment te trouver si toi-même tu ne nous guides jusque à toi? Fais-nous la grâce de te chercher et de te trouver, ô Éternel, et parle-nous. Oui, parle-nous. Amen. Les textes relatifs à l'eunuque éthiopien, à la conversion de Paul, ainsi que le cantique de Marie, illustrent particulièrement ce que le royaume dont Jésus est le héros et le messager produit chez celles et ceux qui l'accueillent. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin en commençant par le personnage de Marie. Marie est une figure attachante du troisième évangile. Luc la présente comme une toute jeune femme qui accueille la vocation qui lui est proposée avec une foi exemplaire. Les protestants boudent assez souvent cette foi exemplaire en réaction, bien sûr, au culte marial, à la dévotion mariale. Et c'est un tort, évidemment, car comme tous les personnages bibliques, le personnage de Marie est un personnage romancé qui nous aide à élucider ce qu'il en est de la foi pour la Bible. La foi, émouna en hébreu, pistis en grec, se définit, d'après les textes bibliques, comme une relation de confiance, une relation de confiance personnelle avec Dieu. Elle se distingue donc de la croyance, qui, elle, est sur le registre de l'intellect et qui peut d'ailleurs se corriger, se modifier, qui doit se corriger, qui doit se modifier, s'ajuster, se revisiter, si vous me permettez l'expression. La foi émouna ou pistis est relation de confiance avec Dieu. Les psalmistes utilisent pour définir cette foi émouna, la métaphore du rocher. L'Éternel est mon rocher, mon appui, ma haute retraite. Si vous vous êtes assis sur ces chaises ce matin, confiant que vous êtes, c'est parce que vous avez cru que ces chaises pouvaient supporter votre poids. Vous vous êtes appuyé sur ces chaises. Eh bien, c'est exactement cela, la foi Emouna. On s'appuie sur l'Éternel comme un rocher solide. Jésus rebondit sur cette image dans sa parabole sur le sable et sur le roc. Effectivement, il recommande, comme les psalmistes, de s'appuyer, de construire sa vie, sa maison sur le roc. Alors tout ceci est connu et pourrait laisser penser que la foi relève entièrement de l'intériorité, de l'intimité de l'individu. Celles et ceux qui font de la laïcité la religion de ceux qui n'en ont pas voudraient d'ailleurs reléguer la foi à l'intime, à l'intériorité. La foi devrait être pour eux une affaire privée, intime et point barre. Sauf que la foi véritable, la foi Emouna, Pistis, nous engage. Elle nous engage bien sûr individuellement, intérieurement, mais elle nous engage aussi socialement. Et elle nous engage aussi sur le plan sociétal, sur le plan éthique. Qu'implique véritablement la foi et quels fruits produit-elle dans les cœurs et les vies de celles et ceux qui accueillent Dieu, qui s'appuient sur Dieu comme sur leur rocher? Eh bien, c'est ce que nous aide à élucider les personnages de Marie, de l'Éthiopien et de Paul dans l'Évangile selon Luc et le livre des Actes qui en est sa suite. Le personnage de Marie, en Luc, présente deux vertus qui ont beaucoup compté pour les réformateurs et pour les premières générations protestantes. Je veux parler du courage de la foi et de la joie de la foi. Pour la Marie de Luc, le courage de la foi consiste non seulement à répondre positivement à la vocation que Dieu lui adresse, mais c'est aussi la capacité d'assumer publiquement les conséquences qui pourraient découler de cette acceptation personnelle. À bien y regarder, Marie n'offre pas dans la Bible un exemple de réponse positive à Dieu parmi les autres. Non, Luc nous fait délibérément sentir que la réponse de Marie est l'exemple type, l'exemple même de la réponse positive à Dieu. En effet, alors que le lecteur de la Bible découvre un Abraham complètement omnibulé par la réalisation de la promesse au sujet de sa descendance, alors que Moïse, devant le buisson ardent, renâcle à répondre positivement à l'appel de Dieu et demande finalement que le Seigneur envoie quelqu'un d'autre à sa place, alors que David conserve des zones d'ombre dans sa vie, dans son cœur, que Jérémie ne peut s'empêcher de pleurer sur sa vocation, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, reste incrédule, malgré la visitation d'un ange tout de même. La Marie de Luc, elle, fait, en ce qui la concerne, absolument confiance à Dieu. Pourtant, le narrateur le sous-entend parfaitement, c'est bien son bonheur tranquille auprès de Joseph et même sa propre vie qu'elle met en jeu en acceptant publiquement la vocation que Dieu lui adresse. Dans un contexte où on lapide les femmes qui deviennent enceintes sans le concours de leur mari, elle risque en effet rien de moins que la mort. Son acquiescement à la vocation que lui adresse l'ange Gabriel n'a donc rien d'anodin dans le récit. Et pourtant, bien loin de l'effrayer, son acquiescement à Dieu la remplit d'une joie intense. Une joie intense. Serait-elle insouciante, cette Marie de Luc ? Il serait plus juste de dire qu'elle illustre tout simplement l'expérience de la joie intense, Cette joie intense de la rencontre avec Dieu, lorsqu'on prend conscience de sa présence et de son appel dans notre quotidien. La joie de Marie, c'est le second aspect du personnage de Marie dans le récit de l'enfance selon Luc. Marie exulte de joie. Le cantique que l'évangéliste met sur ses lèvres est un hymne typique de la liesse qui envahit celui ou celle qui accueille Dieu, celui ou celle qui consent à Dieu. La joie, la jubilation intérieure et l'émotion qui accompagnent toute prise de conscience de la présence de Dieu et toute réponse positive à son appel. Dans le livre des Actes, il y a deux autres personnages par lesquels Luc brosse ce qu'il en est du courage et de la joie de la foi. Le premier n'est autre que ce juif de la diaspora qui exerçait, nous dit-on, de hautes fonctions dans le royaume d'Éthiopie, probablement au sein du harem du souverain, puisque l'auteur précise qu'il était eunuque. Ce haut dignitaire représente à lui seul le paradoxe de la réussite et de la frustration. Quoi de plus triste, en effet, pour un juif du Second Temple de ne point posséder cette descendance que le Premier Testament présente comme la bénédiction concrète de l'Éternel. Le fric, c'est chic, c'est bien connu, n'est-ce pas? Et ça ouvre beaucoup de portes. Le fric, c'est chic, et la carrière est importante dans la vie d'une femme ou d'un homme. Mais ils ne font pas tout. La sagesse populaire nous le dit, et surtout l'Évangile nous le dit. Le riche Éthiopien a bien compris, lui, que les dorures et les fastes des palais ne remplissent pas une vie, ne remplissent pas une âme. Alors il s'est mis en route pour venir en pèlerinage à Jérusalem afin de prier le Dieu unique et d'essayer de remplir son vide intérieur avec cette présence qu'il recherche. Mais il n'est pas très radieux sur le chemin du retour vers l'Éthiopie où le rejoint Philippe. Il médite sur ce passage d'Ésaïe 53 qui évoque un mystérieux personnage messianique. Pour l'évangéliste Philippe, qui le rejoint sur le chemin, l'occasion est trop belle. Il entre en discussion avec lui. Et ce faisant, l'auteur du livre des Actes nous donne un modèle pour nous, pour rebondir sur les possibilités de témoignages qui nous sont offerts. Philippe entre en discussion et dévoile à l'Éthiopien la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'est Philippe qui parle, qui explique, mais c'est l'Esprit-Saint qui frappe à la porte du cœur de l'Éthiopien. Et c'est pour lui l'heureux temps de la rencontre avec Dieu. L'homme ouvre son cœur à la présence divine et reçoit celui qui seul peut remplir une âme qui ressent son vide. Celui qui remplit, qui nous remplit de sa joie et de sa force. Philippe le baptise et joyeux, nous dit le texte, le voici qui poursuit son chemin transformé et régénéré, prêt à affronter sa vie, ses responsabilités, avec le courage de sa foi nouvelle. Le deuxième exemple du livre des Actes, exemple de courage et de joie, n'est autre que celui de l'apôtre Paul. Sa conversion à la foi chrétienne pose question. Comment le plus grand ennemi des premiers chrétiens, celui qui respirait la menace et la persécution, a pu devenir le plus grand missionnaire du mouvement de Jésus. Le récit de sa rencontre avec le Christ dans le livre des Actes est évidemment un midrash, non un compte-rendu historique. Paul a fait l'expérience de la foi au sein même de son esprit torturé et fragilisé par le fanatisme, mais il ne dit pas beaucoup plus sur sa conversion dans ses épîtres. Après s'être converti, on ne sait trop finalement comment, il lui a fallu se mettre de côté pour plus d'une décennie afin de maturer sa foi et de la revisiter à la lumière du Christ. Mais lorsque Barnabas est venu le chercher à Tarse, où son talent croupissait, il a répondu « oui, amen » à la vocation qui le saisissait. Vu la défiance que les chrétiens avaient de lui, et vu la haine fanatique de ses anciens frères d'âme, les pharisiens, c'était extrêmement courageux de sa part. Dans sa seconde épître aux Corinthiens que nous avons lue, il décrit les difficultés et les épreuves auxquelles sa foi nouvelle l'a conduit. Et je dirais, cette façon courageuse qu'il exprime d'y faire face. En effet, il écrit qu'il est souvent, lui et son équipe, dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, dit-il, que nous vivons, comme châtiés et non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons tout, parce qu'il possède Dieu. Voilà le fin mot de sa pensée. Mais qu'est-ce qui rendait Paul si courageux? Qu'est-ce qui rendait Paul si endurant? Qu'est-ce qui rendait Paul si tenace, si infatigable, si intrépide? Une seule réponse, sa foi et la joie de sa foi qui faisait son courage. On nous regarde comme attristés et nous sommes toujours joyeux, écrit-il. Et vu l'opposition qu'il soulevait et les difficultés qu'il affrontait, il y avait de quoi pourtant être attristé. L'expérience de la foi, qui est tout ensemble saisissement, découverte de la présence divine, communion à Dieu et au Christ, acquiescement à Dieu, versait en lui une joie imprenable, la joie du royaume de Dieu. Cette joie indicible qui transporte le cœur, même dans l'affliction, cette joie qui ne se confond pas avec la gaieté, mais qui faisait dire à Paul qu'il était toujours joyeux, et pourtant, il ne manquait pas de peine et de tracas. Il nous faut conclure. Que nous disent ces textes? Nous passerions à côté de leur visée si nous regardions les figures de Marie, de l'Éthiopien ou de Paul comme des figures hors normes. Tout au contraire, ces récits sont ciselés comme des midrashs pour nous communiquer le souffle qui les anime. La foi est une expérience engageante. Voilà ce que dévoilent les figures de Marie, de l'Éthiopien et de Paul. La foi est une expérience de la présence de Dieu qui vient à notre esprit, l'expérience d'un appel, d'une vocation qui nous saisit, l'expérience d'une relation qui nous conduit à des temps de communion, on ne saurait dire comment, une expérience qui vient à nous au travers de cette aventure d'idées qui rebondit dans les Écritures et dans l'Évangile, et qui fait son chemin en nous quand nous participons au sens des choses de cette aventure d'idées. La foi est une expérience de sentiment, une expérience d'affect, mais autant une expérience de raison. La spiritualité qui déconnecte la raison n'est pas la foi émouna ou pistis de la Bible, car la foi émouna va avec la sagesse, la chokma. Or la sagesse, la chokma est intelligence. Elle est intelligence de la foi. Et c'est pourquoi la foi est une foi engageante. Le oui de la foi que l'on adresse à Dieu implique que des non soient prononcés aussi. Non à ce qui penche vers le mauvais ou vers le méchant. Non à l'injustice ou à ce qui nuit au prochain. Non à ce qui renverse les vertus et les valeurs. Non à ce qui glisse vers le bas, vers les instincts primaires. On ne peut être d'accord avec Jésus ou l'ami de Jésus, me disait un ancien pasteur de ma jeunesse, si on est ami avec tout le monde ou d'accord avec toutes les idées. Quand on dit oui à Jésus, quand on dit oui à Dieu, eh bien on doit dire non à ce qui n'est pas ami de Dieu, à ce qui n'est pas ami de Jésus. Le oui adressé à Dieu nous engage. Voilà ce que sous-entendent les figures de Marie, de l'Éthiopien et de Paul. Nous engage. Et cet engagement peut nous rendre impopulaires socialement, parfois même impopulaires dans les églises ou dans les milieux chrétiens. Au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, dit l'apôtre Paul, le courage de la foi et la joie de la foi ne peuvent pas se taire face à l'injustice, face au mal ou face à la désespérance du prochain. Impossible pour celui ou celle qui fait l'expérience de la joie du royaume de rester muet ou de se taire. Les figures de Marie, de l'Éthiopien et de Paul établissent que la découverte du royaume de Dieu et la réponse positive à son appel provoquent une joie indicible, mais nous appellent aussi au courage d'être les disciples de Jésus. Amen. Et pour répondre à l'interpellation qui est toujours donnée avec la prédication, avec la parole, nous nous levons et nous chantons le chant numéro 297, « Ô Dieu des grâces éternelles ».
C'est le moment des annonces et de la collecte.
Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, aussi bien ceux qui sont présents physiquement que ceux qui nous rejoignent par le biais de la technologie. Un immense merci au presteur Bruno Godelet qui est venu pour ce culte ce matin et à sa communauté que nous saluons bien fraternellement afin de permettre à notre pasteur Béatrice de prendre un petit peu du repos bien mérité. Cette semaine, c'est une semaine de vacances scolaires. Il y a donc aussi vacances des activités paroissiales habituelles. C'est bien parce que ça va nous donner du temps à tous pour visionner, bien par exemple, le contenu du brunch libéral de samedi dernier, 12 octobre, où le pasteur Bruno Godelet nous a instruit sur la notion de kérigme. Ou bien encore de visionner l'intervention de notre ancienne pasteur Agnès sur le regard protestant à propos de Caïn et Abel. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui, c'est très bref, et je vous invite maintenant, comme c'est l'usage, au don joyeux qui nous permet de faire vivre notre Église. Et je vous souhaite au nom de tout le conseil presbytéral un très très beau dimanche, bien qu'il soit un petit peu maussade sur le plan de la météo, mais un très très beau dimanche à tous et à toutes.
Après avoir renouvelé dans notre cœur la bonne nouvelle de l'Évangile et médité la parole, nous sommes invités autour de cette table qui n'est pas la table de l'Église qui la possède, mais la table du Christ. C'est lui qui la préside et c'est lui qui donne communion au Père, donne communion aussi aux frères et sœurs les uns aux autres. Levons-nous pour répondre à son appel. Il est bon et joyeux de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Il est bon, il est joyeux de remercier Dieu pour le pain et le vin, signe et sceau de sa communion. Il est bon, il est joyeux d'être les invités, les amis, les frères, les disciples de Jésus-Christ. Ensemble, nous chantons le premier spontané de la scène. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Oui, Éternel, nous faisons mémoire de la vie et de l'œuvre de ton Christ. Il est notre Messie et notre guide. Nous faisons mémoire de la bonne nouvelle de son message. Il est notre libérateur. Nous faisons mémoire de sa Pâque et de ses promesses. Il est notre espérance. Nous prions pour que tu nous donnes cette force, ce courage de la foi, cette joie de la foi, comme tu l'as donné aux réformateurs et à ces premières générations de protestants qui ont, malgré l'oppression, malgré les persécutions, fait face parce qu'il n'était pas possible socialement de se taire. Oui, donne-nous, Seigneur, ce courage de la foi, cette joie de la foi. Nous voulons penser aussi ensemble à toutes les personnes que nous portons dans notre cœur. Et nous voulons, dans le secret, prononcer leur prénom. Toutes ces personnes auxquelles nous pensons, tous ces visages qui s'éclairent dans nos esprits, oui, tous ces bien-aimés, nous voulons te les recommander, te demander de les visiter. Tu les connais mieux que nous et tu les aimes mieux que nous. Donne-nous d'être auprès de ces personnes des aides et des soutiens. Car tu es notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le spontané qui vient. Tout est prêt, dit le Seigneur, tout est accompli, venez, et nous formerons un cercle, comme à notre habitude, dans nos églises, en gardant notre feuillet liturgique avec nous.
Le pain que nous rompons et la communion au Christ Jésus, à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, au don de l'Esprit Saint. Mangez-en tous. Coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au Christ Jésus et au royaume du Père qui est la joie de notre esprit. Amen. Buvez-en tous.
Et nous te rendons grâce, Éternel, pour ce pain et pour ce vin, signe et sceau de ton alliance fondée en Christ Jésus. Nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous relève et qui nous fait vivre. Et nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et pour les multiples soins de ta providence. Reçois favorablement nos prières les plus secrètes et la reconnaissance de nos cœurs, ô Éternel. Et ensemble, nous entonnons à toi la gloire. Nous allons reprendre nos chemins, nous allons reprendre nos métros, nous allons retrouver le chemin de la maison. Gardons dans nos cœurs ce que nous avons médité. Et souvenons-nous qu'en ce jour de la Réformation, nous nous sommes souvenus du courage de nos pères et mères dans la foi. Ce courage qui transparaît des figures de Marie, de l'Éthiopien, de Paul. Les réformateurs et leurs disciples l'ont eu. Ils ont été sel de la terre, ils ont soulevé l'Europe par leur foi, par leur courage, par leur engagement social. Voilà, que cette parole nous habite et qu'elle nous fasse nous aussi des disciples. Que ces mains d'hommes soient pour nous toutes et nous tous le signe de sa présence et de sa bénédiction. Le Seigneur vous bénit et il vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière. Et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et il vous donne sa paix. Amen. Allons dans la paix du Seigneur et nous nous séparons avec le dernier spontané.